Florence, votre organisateur, c'est une invitation qui me fait beaucoup d'honneur et plaisir et félicitations pour ce programme tout à fait remarquable, même malgré ma présence dans ce programme. Ce qui est encore plus remarquable. Alors, dans cette intervention, je voudrais dresser un parallèle entre les interventions théoriques que Spinoza et Marx ont accomplies dans l'espace idéologique de leurs époques respectives, afin, si possible, me dirait très convaincant, de saisir leur forme commune. Alors, pour ce faire, je m'appuierai sur quelques indications de Louis Althusser. Je suppose que Althusser n'est pas très connu, voire pas du tout. Je dirais juste deux choses rapidement. La première, c'est qu'il était un plus important philosophe marxiste français de la deuxième moitié du XXe siècle. La deuxième chose, ça concerne son rapport à Spinoza. C'est assez étrange parce que Althusser était d'un côté un important passeur de Spinoza aux années 60-70. En même temps, à la différence d'autres grands passeurs comme Deleuze, Guérou, Alexandre Materon, qui travaillaient à peu près à la même époque, il a très peu écrit sur Spinoza. En gros, on a simplement quelques pages et beaucoup d'allusions très elliptiques qui se trouvent par contre dans tous les points nodaux importants de la pensée d'Althusser lui-même. Alors, la première, je m'appuierai sur quelques idées d'Althusser pour essayer de dresser ce parallèle entre Marx et Spinoza. La première, l'idée la plus importante, est celle selon laquelle la théorie spinoziste de l'imagination comme le premier genre de connaissance, constitue, c'est l'idée d'Althusser, la plus importante anticipation dans l'histoire de la philosophie, de la théorie marxienne de l'idéologie. Althusser va encore plus loin, il va jusqu'à affirmer que Spinoza, sur ce point-là, avec sa théorie de l'imagination, dépasse, dans une certaine mesure, Marx lui-même, ou dépasse un certain Marx, dans la mesure où l'idéologie telle qu'elle est théorisée par Marx, du moins dans l'idéologie allemande, 1845, est encore comprise comme une sorte d'illusion qu'une connaissance adéquate serait à même de dissiper. Alors que chez Spinoza, l'imagination constitue la modalité fondamentale de notre rapport au monde, une modalité nécessaire et inéliminable, bien qu'elle puisse, comme on va le voir, être transformée, être travaillée. Alors, je rappelle rapidement que, selon Spinoza, l'imagination nous apprend quelque chose sur la manière dont les choses affectent notre corps et de ce point de vue, en ce qui concerne la manière dont les choses affectent notre corps, l'imagination nous fournit une connaissance pleinement positive. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une illusion. En même temps, si nous croyons que l'imagination nous apprend quelque chose sur les choses elles-mêmes, sur les choses qui nous affectent, nous nous fourvoyons. Alors, Althusser reprend, quand il propose sa propre théorie de l'idéologie, presque telle qu'elle, c'est de là de Spinoza. Althusser définit l'idéologie comme la manière dont on se représente non pas nos conditions d'existence, mais notre rapport à nos conditions d'existence. C'est pratiquement identique à ce que dit Spinoza. Alors, pour cette raison-là, je considère qu'il est important de commencer par Spinoza, si l'on veut questionner, par la théorie de l'imagination de Spinoza, si l'on veut questionner la manière dont Althusser, l'intellectuel, avant tout Marx lui-même, peut intervenir de manière efficace sur et dans l'idéologie. Alors, trois autres idées dont je vais me servir pour aborder cette question, que j'énonce maintenant une après l'autre, que je vais ensuite mobiliser dans l'exposé. La première thèse althusserienne sur Spinoza est une thèse qu'il énonce assez tard dans son parcours, dans un texte qui était publié posthume, qui s'intitule « Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre », la thèse selon laquelle le véritable objet de la philosophie de Spinoza est le vide. Alors, c'est extrêmement paradoxal, cette thèse-là, si on l'applique à Spinoza. Deuxième idée, et celle suivant laquelle, dans le traité théologico-politique, auquel je vais me référer dorénavant en l'appelant simplement traité théologico-politique, Spinoza nous fournit un exemple parfait de connaissance de troisième genre, à savoir la connaissance de l'histoire du peuple juif en tant que singularité universelle. En même temps qu'il fait ça, Spinoza, dans le traité théologico-politique, esquisse une théorie de l'idéologie fondée sur la conception matérialiste de l'imaginaire, dont on trouve bien sûr dans l'éthique la systématisation. Alors je dis simplement qu'en commentant ce passage d'Altifère, Pierre-François Moreau, qui est un des plus importants spinozistes français, exprime à la fois sa perplexité face à des termes, comme celui du troisième genre de connaissance, de singularité universelle, que Spinoza n'emploie jamais dans le traité de logique politique, et son étonnement face à celle qui pourrait être, à son avis, l'intuition en fait, la plus profonde d'Althusser à l'égard de Spinoza. C'est la deuxième, la troisième thèse, pardon. La dernière consiste à la reconnaissance d'une affinité entre la stratégie philosophique de Spinoza et celle qu'Althusser lui-même essayait de réaliser, de conceptualiser. Pour expliquer la stratégie philosophique de Spinoza, Althusser reprend en effet sa propre conception de la philosophie comme guerre et de l'espace occupé par les différentes positions philosophiques comme champ de bataille, et il affirme que la spécificité de Spinoza est qu'au lieu d'attaquer ses adversaires de l'extérieur, il s'installe au cœur même de leur forteresse, en l'occurrence Dieu, et la combat de l'intérieur en modifiant ainsi les coordonnées même du champ de bataille. Alors l'intérêt de Spinoza pour Althusser, c'est que sa philosophie, alors, prend position comme toute philosophie dans un champ de bataille, mais elle est capable de se situer à la fois, ou de prendre position à la fois au centre du champ de bataille et sur le champ de bataille, transformer les coordonnées même du champ de bataille. Alors, la thèse de la philosophie comme champ de bataille, entre parenthèses, Althusser la tire de Kant, hein, qui dit que la métaphysique est un camp plat. Évidemment, Kant supposait que sa propre philosophie allait apporter la paix perpétuelle dans cette histoire. Ce qu'Althusser considère impossible. Alors, dans la mesure où c'est dans le traité théologico-politique que l'on voit la connaissance, selon Althusser, celle du troisième genre, à l'œuvre, et ce qui est encore plus important, qu'on la voit à l'œuvre sous la forme d'une intervention dans une forme spécifique d'idéologie, je vais revenir là-dessus, c'est bien sur cet ouvrage qu'il faut se pencher afin de comprendre comment Spinoza intervient dans un champ de bataille en mettant à profit une certaine forme de vide. Autrement dit, ce que je vais essayer de faire ici, c'est d'étudier ce que Spinoza a fait dans le traité pour remonter à la manière dont Althusser réfléchit le père de la philosophie qui s'est forcé de théoriser en le retrouvant à l'œuvre chez Marx. Alors, il faut que je traverse systématiquement et très synthétiquement, trop synthétiquement, le traité logico-politique. Alors, pour le faire, je vais m'appuyer sur deux commentateurs qui se situent en fait dans le stylage d'Althusser, Étienne Balibar d'un côté et André Tozel de l'autre. Alors, ces deux auteurs relèvent tous les deux qu'il existe chez Spinoza, notamment en lisant l'éthique et le traité logico-politique ensemble, trois idées de Dieu profondément différentes. Balibar met explicitement en rapport ces trois idées avec les trois formes de connaissance. Tozel, de son côté, étudie ce que ces trois idées nous apprennent sur la façon dont Spinoza réfléchit le rapport entre philosophie et, ou disons plus en général, connaissance et idéologie. Alors, je rappellerai d'abord, à la suite de Balibar, que dans les traités logico-politiques, Spinoza fait la distinction entre deux types de religions, fondamentalement. La première se fonde sur la croyance à ce que Balibar, en produisant une expression comme ça très ramassée, appelle un Deus sive legislator sive lex, un Dieu comme législateur, comme loi. Un Dieu qui impose ses lois aux hommes, généralement par le biais d'un médiateur, par exemple Moïse, en récompensant ceux qui les respectent et en punissant ceux qui les transgressent. Alors évidemment, Spinoza considère cette forme de religion comme profondément superstitieuse. Il affirme que cette forme de religion tire sa force des affects tristes qui, chez Spinoza, sont toujours passifs, et principalement de la crainte. Cette forme de religion capte la puissance collective en la transférant vers le Dieu législateur et en rendant possible la légitimation d'un pouvoir politique qui organise la dépossession de cette puissance. C'est l'idée de théologico-politique. Spinoza insiste aussi sur l'incompatibilité entre les pratiques soumises à ce type de religion et le comportement du philosophe. Il est important de souligner, je suis encore Balibar sur ce point, qu'une tension se manifeste au sein de cette religion entre l'idée de Dieu en tant que législateur et l'idée de Dieu en tant que lex. Selon cette deuxième déclinaison du premier type de religion, Dieu n'est pas tellement identifié avec un législateur concret, mais avec la loi ou le légal. c'est-à-dire avec le lieu non anthropomorphique d'énonciation d'une interpellation pure appelant une obéissance inconditionnelle. Cette figure d'une loi sans législateur, qui constitue le véritable point d'impossibilité du premier type de religion, rend possible des basculements, des réformes internes à l'imaginaire qui le soutient, jusqu'aux remises en question des formes de pouvoir prétendant incarner cette légalité pure dans un individu particulier. Le deuxième type de religion se fonde sur la croyance en ce que Balibar appelle un Deus sive amor sive homo, un Dieu comme amour comme homme. C'est un Dieu qui aime tous les hommes de manière universelle et inconditionnelle et que les hommes aiment en raison de cet amour qu'ils manifestent à leur égard. Leur existence se trouve ainsi totalement justifiée en Dieu et leur obéissance à son égard se fonde principalement sur un affect joyeux, même si toujours passif, très important, à savoir l'espoir. Ce type de religion se base sur un credo minimum universellement partageable qui impose la charité et la justice envers les autres hommes en tant qu'aimés par Dieu et garantit ainsi la paix sociale. Ce qui mène Spinoza à affirmer qu'en fait ce credo peut être établi pratiquement dans le même terme par la raison, par la raison naturelle elle-même. Et Spinoza va juste dire qu'il y a en fait, il n'y a aucune différence au niveau du comportement entre le comportement de ce type de croyant-là et celui du philosophe. Alors dans ce cas aussi, une tension interne se manifeste dans l'imaginaire de cette forme de religion. En effet, la croyance en un Dieu amour, encore anthropomorphique, peut basculer par la croyance à l'homme lui-même en tant que Dieu. Comme l'explique Balibar, cet imaginaire tend vers une sorte de religion humaniste selon laquelle, pour un homme, Dieu n'est rien d'autre qu'un homme ou un autre homme, donc sa relation avec un autre homme. Alors, dans la centralité de la relation réside le point non anthropomorphique de cette forme, cette deuxième forme de croyance, dans la mesure où l'instance qui garantit le rapport humain n'est autre que ce rapport lui-même. On pourrait donc affirmer que ce croyant est tout simplement l'homme qui tâche par l'amour de son prochain de produire de plus en plus de prochains. Alors, il faut enfin souligner, et ce n'est pas mal la question de l'imagination, que tout en étant profondément différentes entre elles et différenciées à leur intérieur, comme on l'a vu, ces deux formes de religion relèvent toutes les deux de l'imagination, donc du premier genre de connaissance, et produisent donc toutes les deux des formes de passivité. Dans ce sens, la fin du troisième chapitre du traité est très explicite, très, très dure, à nos oreilles, disons, même si je pense que Spinoza n'avait pas l'intention d'être dur. À la fin du troisième chapitre du traité, Spinoza affirme que la connaissance du premier genre produite par la religion ne sert rien d'autre que l'obéissance. Alors, il faut dire que pour Spinoza, l'obéissance est difficile. Spinoza n'est pas critique en soi contre l'obéissance. Il considère qu'en fait, dans une certaine mesure, l'obéissance est nécessaire, une forme d'obéissance est nécessaire à la praticabilité de la force sociale. En fait. Alors, néanmoins, dans ces deux premiers types de religion, les hommes sont pris dans le cycle de l'anthropomorphisme et du finalisme, dans une structure passivisante d'interpellation assujettissement, et l'entendement demeure une puissance auxiliaire de la puissance imaginative. Autrement dit, bien que notre puissance puisse se trouver augmentée par certaines formes de religion, notamment la deuxième, le propre des affects joyeux, c'est précisément d'accompagner une augmentation de notre puissance, comme le cas de l'espoir, par exemple. Alors, bien que notre puissance d'agir puisse s'en trouver augmentée, la religion ne peut que produire des affects dont nous ne sommes pas la cause adéquate, c'est-à-dire que ça ne peut. Ça mène nécessairement à nous enfermer dans une forme de passivité. Nous sommes actifs seulement quand nous sommes la cause adéquate de nos actions, pour Spinoza. Or, si un tel état des choses est dans une certaine mesure nécessaire, l'imagination ne peut pas, je l'ai dit au début, être purement et simplement dissipée, elle est même utile. La connaissance peut intervenir pour que les postures de passivité que l'imagination risque d'entretenir soient interrompues et transformées éventuellement en des formes d'activité. Alors, nous arrivons maintenant à la troisième idée de Dieu, c'est-à-dire à l'idée de Dieu en tant qu'elle fait l'objet d'une connaissance adéquate. Il s'agit de l'idée de Dieu comme nature ou comme substance, que Spinoza développe évidemment dans l'éthique, l'idée de Dieu comme acte nécessaire exprimant une puissance infinie et positive. C'est l'idée on peut décrire hein, ce trois demi idées de Dieu par Dieu par deux bien différents, mais qui en fait disent la même chose. C'est l'idée d'une totalité ouverte ou infinie qui opère en soi-même en élargissant et en diversifiant infiniment ce mode, ou, hein, pour prendre les choses à l'envers, justement, c'est l'idée d'une infinité d'individus multiples qui reproduisent leur singularité à travers la production de nouvelles interactions et combinaisons. Alors, ce qui nous intéresse dans cette troisième idée de Dieu est qu'elle se retrouve tout au long du traité théologico-politique, pour ainsi dire, à l'état opératoire. Elle nous permet donc d'élucider comment la connaissance adéquate intervient pour travailler de l'intérieur l'imaginaire religieux afin de le rendre plus expressif de notre puissance d'agir jusqu'à ce qu'il puisse, éventuellement, ou en tout cas en dernière instance, fournir les bases pour opérer le saut vers la philosophie. Alors c'est ici que les réflexions de Tozel deviennent centrales, selon André Tozel. Une connaissance qui s'appuie sur cette troisième idée de Dieu peut expliciter la genèse de tout lien théologico-politique en le mettant à rapport avec cette infinie puissance productrice de la substance, ce qui permet de révéler tout lien théologico-politique comme à la fois factuel et fictif, c'est-à-dire comme étant à la fois nécessaire et transformable. Cette intervention délie ainsi, toute liaison donnée, vous allez jouer avec le mot religio, qui est évidemment le terme de liaison, contient le terme de liaison. Cette intervention délie toute liaison donnée et rend par conséquent possible une réouverture de pratique qui tendrait autrement à l'autoréférentialité. Elle permet en particulier au sujet de ces pratiques de remettre en question les liaisons que l'imagination leur impose, en les libérant, y compris leur imagination, pour la production d'autres liaisons. Alors, il est important d'insister sur la manière dont cette intervention produit cet effet de liaison. Elle procède en opposant la figure du Deus Divi Natura et sa puissance de liaison à la figure du Dieu ou de l'autre théologico-politique qui capte la puissance de la multitude pour la stabiliser dans l'obéissance craintive ou amoureuse envers un pouvoir garant. C'est faisant, la figure du Deus Divi Natura tend à transformer ce Dieu, l'autre théologico-politique, j'utilise le mot « autre » pour le distinguer du Dieu spinoziste, si vous voulez, hein, l'autre transforme l'autre théologico-politique en une instance vive de dénonciation de la loi, ou, mieux encore, en un lieu qui, étant produit par la puissance de la multitude elle-même, ne peut être occupé par tel ou tel individu que de manière factuelle et fictive, à nouveau, parce que tous doivent l'occuper ensemble. Le philosophe renvoie ainsi la multitude à sa propre puissance comme à la seule instance constitutive, comme à l'instance qui est constitutive de celle même qui la limite. Sa médiation, la médiation du philosophe, contrairement par exemple à celle opérée par Moïse, dévoile l'inconsistance du désir de l'autre, théologico-politique, auquel la multitude est soumise, et favorise la recherche de nouveaux attachements qui augmentent sa puissance. Alors, on remarquera que la connaissance adéquate s'appuie sur le pont d'impossibilité interne de l'imagination. Par exemple, le Dieu comme loi sans législateur, ou le Dieu comme relation entre les hommes, le deuxième type de religion. Elle s'appuie sur le pont d'impossibilité interne de l'imagination afin d'interrompre, de suspendre de l'intérieur de l'imagination les différentes formes de finalisme et d'anthropomorphisme qui l'habitent. S'il n'y a donc pas de continuité entre imagination et connaissance adéquate, si l'intervention de la connaissance adéquate produit bien une interruption de l'imagination, une coupure justement en son sens, on ne peut pas non plus considérer que cette intervention opère de manière purement extérieure. Au contraire, elle adhère au processus à l'œuvre dans l'imagination afin de les faire dévier de leur destination. Par ailleurs, en déliant de cette manière les formes figées d'imagination, cette intervention ouvre également l'espace pour que la connaissance adéquate de certains individus prenne le dessus sur leur imagination, leur permettant ainsi de connaître génétiquement cette dernière en rejoignant et en régénérant le geste du philosophe. Alors, ça ne signifie pas à nouveau que l'imagination pourrait disparaître, ce serait impossible, probablement même tout à fait dangereux. Mais qu'elle peut être constamment renvoyée à des processus de liaison qui l'empêchent de se fermer sur elle-même et qui favorisent sa réorientation dans un sens qui augmente la puissance d'agir des individus et des groupes. si l'intervention intellectuelle peut favoriser ces basculements, c'est parce que, en opposant aux figures de l'autre théologico-politique, le Dieu comme nature, elle fait paradoxalement le vide de l'intérieur même de l'idéologie. Il faut toutefois bien comprendre en quoi consiste ce vide. Évidemment, ce qui est le de vide à Spinoza ne va pas de tout soi. Cette opération, faire le vide à l'intérieur de l'imaginaire, à l'intérieur de l'idéologie, ne revient pas à dévoiler un élément de négativité qui pourrait garantir en avance le parcours nécessaire de la réforme interne de l'imaginaire, de la superstition à lui donnant une fin. Elle ne renvoie pas non plus la multitude en sorte d'indétermination originaire, lui permettant de s'autodéterminer par sa libre volonté. Spinoza ne fait que mettre en rapport une certaine forme d'individualité humaine nécessairement déterminée, par exemple celle d'un peuple, avec la productivité infinie et absolument positive de la substance. Cette mise en rapport d'une détermination de l'individualité humaine avec le tout intotalisable qu'est la substance produit l'évidement de la tendance propre à cette individualité humaine à s'hypostasier comme un empire dans un empire. Suite à ce travail, l'individualité humaine ne peut plus se faire elle-même totalité en s'illusionnant de pouvoir se détacher de la détermination de la nature, de pouvoir, pour ainsi dire, s'indéterminer, ou, de l'autre côté, de pouvoir saisir le principe téléologique de sa réalisation nécessaire. L'intervention philosophique ne mène ni à un choix qui serait absolument libre, ça mène forcément une forme de liberté d'indifférence, ni à la saisie d'une sorte de principe de négativité qui conduirait en fait le processus de la réforme interne de l'imagination. Alors, ça nous permet d'élucider, en fait, de dire quelques mots rapidement sur le déterminisme spinoziste. C'est un déterminisme qui est une pensée, en fait, où contingence et nécessité tendent à fusionner, se distinguant à la fois de toute nécessité prédéterminée et de toute contingence indéterminée. Pour résumer, la puissance infinie de Dieu se reflète au niveau de la plénitude de l'imagination propre à l'individu, sous forme de vide, non pas en faisant du vide la vérité de cette individualité, mais en procédant à l'évitement de sa tendance à la totalisation par la mise en relief du caractère à la fois actuel et fictif de cette tendance, c'est-à-dire aussi de sa transformabilité. En effet, si en tant que factuel, cette tendance possède bien une nécessité propre, elle se révèle en même temps comme fictive et donc transformable lorsque cette détermination nécessaire est saisie comme le résultat d'une productivité qui ne cesse de se différencier de l'intérieur. En somme, le vide du plan imaginaire est lui-même plan, mais d'une plénitude qui démonte toute totalisation imaginaire. Alors j'espère, je pense qu'à la fin de ce parcours, on peut comprendre l'affirmation d'Althusser selon laquelle la stratégie de Spinoza consiste à se situer au cœur de la forteresse ennemie afin de la vider de l'intérieur en mettant en rapport toute totalisation du réel, toute image de Dieu, on pourrait dire, avec une puissance qui la conditionne et qui amarre à la fois la nécessité et la limite. Alors j'en viens plus rapidement maintenant à Marx. Alors, dans quelle mesure peut-on retrouver chez Marx un geste théorique similaire à celui qu'Althusser permet de relever chez Spinoza? Alors, je m'appuierai pour le démontrer sur le chapitre numéro 7 de l'objet du Capital, qui est la deuxième contribution d'Althusser à lire le Capital, de ses ouvrages, un ouvrage écrit à plusieurs, le plus célèbre. Dans le chapitre 7 qui s'intitule L'objet de l'économie politique. Althusser ouvre ce chapitre en affirmant que l'œuvre de Marx se présente comme critique. Vous savez peut-être que toutes les œuvres où Marx traite plus ou moins d'économie portent comme titre, comme sous-titre, l'expression critique de l'économie politique. Alors, l'œuvre de Marx se présente comme critique en ceci qu'elle récuse la prétention de l'économie politique à exister comme science en remettant en question le caractère prétendument donné de son objet et de son domaine et son champ de recherche. C'est bien. L'économie politique opère en effet à partir d'un champ, l'économique, dont l'homogénéité semble se donner comme évidente. en raison de cette homogénéité, le caractère mesurable et quantifiable des phénomènes inscrits dans ce champ, par exemple le profit, la rente, l'intérêt, se donne aussi comme évident. Althusser montre que cette double autodonation du champ et de l'objet de l'économie politique est en réalité donnée par l'économie politique elle-même en tant qu'elle découpe le réel de manière à faire de l'un de ces morceaux et des éléments de ce champ un empire dans un empire, précisément, une sphère autonome à traiter dans l'absolu. Une telle hypothétisation est fondée et garantie, selon Althusser, par une anthropologie naïve, plus ou moins désavouée par l'économie politique, selon laquelle tous les hommes, tous les faits économiques se basent sur l'homo economicus, c'est-à-dire sur le sujet économique porteur de ses besoins. L'économie politique postule une origine et une fin des phénomènes qu'elle étudie, de manière à fermer son domaine sur lui-même et à le rendre absolu. Je cite Althusser, tous les sujets étant identiquement sujets de besoins pour l'économie politique, on peut traiter leurs effets en mettant entre parenthèses l'ensemble de ces sujets. Leur universalité se réfléchit alors dans l'universalité des lois, des effets, de leurs besoins, ce qui incline naturellement l'économie politique vers la prétention de traiter dans l'absolu, pour toutes les formes de société passée, présente et à venir, des phénomènes économiques. Fin de citation. Alors Marx intervient dans ce cadre, imposant à l'économie politique la question de la production théorique de son objet, de son champ d'étude. Alors notamment, il reproche, à, par exemple, à Smith et Ricardo, les deux plus célèbres économistes classiques de son époque, d'avoir sacrifié à la valeur, en tant que quantité mesurable, par exemple sous la forme du profit, de la rente, de l'intérêt, d'avoir sacrifié à la valeur, la forme de la valeur, c'est-à-dire la plus-value. Alors maintenant, il faut qu'il explique le plus rapidement possible, je pense, ce que Marx entend par plus-value. Marx dit que c'est sa plus grande découverte, la plus-value. Marx dit, les économistes classiques sacrifient à la valeur la plus-value, qui est en effet la forme de la valeur. Ce sans quoi la valeur ne peut pas être pensée. Ce qui mène en fait les économistes classiques à penser quelque chose de manière inconsciente, on pourrait presque dire. Alors c'est quoi la plus-value ? Plus-value, on y arrive en introduisant une distinction au sein du temps de travail total, donc le temps de travail pendant lequel une force de travail particulière est employée. Donc on distingue au sein du temps de travail total entre le temps de travail nécessaire et le surtravail. Le temps de travail nécessaire est le temps de travail dont la valeur correspond à ce qui est nécessaire pour reproduire la force de travail. Alors évidemment, la valeur du temps de travail nécessaire est le salaire, tout simplement. Alors, le surtravail, de son côté, est ce qui reste du temps de travail total une fois qu'on soustrait le temps de travail nécessaire. Ce surtravail est approprié, évidemment, selon Marx, par le capitaliste qui en tire la plus-value. Ça, c'est la source de la plus-value. Selon Marx, alors la spécificité du mode de production capitaliste c'est de se baser, comme sur son rapport social le plus fondamental, sur l'accroissement automatique et infini de la plus-value elle-même. Je vais faire ici une autre remarque. Évidemment, Marx sait très bien qu'il ne fallait pas attendre le capitalisme pour qu'on vole du surtravail aux gens. Ça a toujours, presque toujours, été le cas. Alors, par exemple, dans le mode de production féodal, aussi le seigneur vient s'approprier d'une partie du travail de ses serfs. Alors, la spécificité du mode de production capitaliste, c'est que pour la première fois dans l'histoire, le travail lui-même est considéré comme une marchandise, c'est-à-dire comme étant entièrement calculable. Ou pour le dire en d'autres termes, dans le mode de production capitaliste, le travail devient, donc le travail en ce qu'il a de plus individuel, devient une pure force de travail abstraite qu'on peut calculer. Le travail devient force de travail, c'est ainsi qu'il devient cette marchandise tout à fait magique qui permet de produire une valeur supérieure à la valeur à laquelle elle est échangée. On échange notre force de travail contre un salaire, mais quand elle est employée, notre force de travail produit de manière générale une valeur supérieure à laquelle, de celle à laquelle elle est échangée. Alors, selon Marx et selon Althusser, c'est seulement une société dont le rapport social fondamental est basé sur la plus-value, seulement cette société-là peut rendre possible quelque chose comme une économie politique, c'est-à-dire comme une soi-disant science qui prétend traiter des phénomènes économiques comme s'ils étaient absolument calculables, totalement calculables. Alors, on comprend pourquoi, en introduisant le concept de plus-value, Marx inscrit dans le discours de l'économie politique à la fois sa limite et ses conditions. Sans plus-value, l'économie politique n'est pas possible, et une société qui se base sur la plus-value produit, on pourrait dire, comme une nécessité, l'économie politique, et en même temps, la plus-value permet de tracer les limites de l'économie politique elle-même. Parce qu'évidemment, la supposition de Marx, c'est que rien ne nous garantit que celui-là soit le seul lien social possible, bien entendu, l'histoire des gens du monde. Donc Marx inscrit dans le discours de l'économie politique sa limite et sa condition. Il montre que l'homogénéité présupposée du champ des phénomènes économiques n'est pas trouvée là comme un donné, mais construite à partir du concept qui la pose et pose en même temps ses propres limites, c'est-à-dire la plus-value, c'est-à-dire une détermination très précisément inséparable du surtravail, donc du système de l'exploitation qui organise la production et la reproduction, donc du rapport social en tant qu'antagonisme de classe. Marx intervient ainsi à l'intérieur du champ de l'économie politique en interrompant sa clôture par la mise en rapport de ce champ avec sa condition limite. Il en relève ainsi le caractère à la fois factuel, parce qu'il est produit de manière nécessaire par sa condition, et fictif, parce qu'il est transformable par une intervention sur sa limite. De cette manière, Marx peut tracer la ligne de démarcation entre une science positiviste, toujours en passe de se tourner en une forme plus ou moins raffinée de superstition par le désaveu de ses conditions limites, et une science critique, qui inscrit ses conditions limites dans son propre procès de connaissance, de manière à ce que les liens qui sont tissés puissent toujours être dénoués. Alors, il revient à Althusser. Il revient à Althusser lui-même d'avoir mis en rapport cette démarche marxienne avec la stratégie philosophique de Spinoza. Au début de ce même chapitre, Althusser élucide de cette manière le geste de Marx, je le cite. Rappelons, à titre d'indication, une thèse célèbre de Spinoza. Nous pouvons, en première approximation, avancer qu'il ne serait pas plus exister d'économie politique qu'il n'existe une science des conclusions comme telle. La science des conclusions n'est pas science, puisqu'elle est l'ignorance en acte de ses prémices. Elle n'est que l'imaginaire en acte, de premier genre. La science de conclusion n'est qu'en effet un produit de la science de prémices. Mais supposée existante cette science de prémices, la prétendue science de conclusion est connue comme imaginaire et comme l'imaginaire en acte. Marx opère donc en dénouant un véritable lien théologico-politique, se donnant sous la forme d'une conclusion sans prémices, c'est-à-dire d'une conclusion absolue. Althusser montre de manière très courte, peut-être, mais quand même, qu'en fait, tout le discours de l'économie politique peut, à la limite, être ramené à une idée de Dieu comme causa sui, en fait. Il montre véritablement comment l'économie politique a le statut d'un discours d'ordre théologico-politique visant à transfigurer le rapport politique contingent pour que les hommes soient pris à leur piège. L'intervention de Marx oppose à ce plan théologico-politique la figure vide de la plus-value. Alors, cette figure, elle est vide, bien entendu, pour l'économie politique. Et les économistes politiques classiques ont continuellement, encore aujourd'hui, reproché à Marx le fait que la plus-value n'est pas une quantité mesurable. Évidemment, la réponse de Marx, c'est que l'imposture, c'est précisément dans le fait de vouloir la mesurer. Alors, la plus-value est vide pour l'économie politique, mais elle renvoie en réalité au plan des rapports sociaux de production en tant qu'effet de l'antagonisme de classe, c'est-à-dire à une productivité qui ne peut se fermer sur elle-même et se reproduire indéfiniment, et qui ouvre ainsi l'espace pour que les individus puissent devenir actifs en saisissant sa puissance de différenciation et de transformation. Alors, le passage que je viens de citer ne peux pas faire beaucoup de précisions, mais vient d'une période qui est définie de théoriciste. Ça semble postuler la capacité de la part du vrai, la science des prémices, de dissiper le faux, la science de conclusion. En même temps, j'insisterai sur le fait que, en tant que produit de ces prémices inconscientes, la science de conclusion est elle-même nécessaire. Et que pour la dissiper, il faut intervenir sur les prémices elles-mêmes, ce que la science, bien entendu, ne peut pas faire seule. Qui plus est, Marx ne se limite pas à opposer de l'extérieur à l'économie politique sa condition limite, mais il lui fait attendre de l'intérieur, à travers le travail de ce concept, à la fois requis et refoulé par le discours de l'économie politique, qu'est la plus-value. Alors j'espère d'avoir montré en quel sens, au-delà de la douceur, une stratégie politique commune peut être identifiée chez Marx et Spinoza. Cette stratégie consiste à faire le vide au sein d'un champ idéologique afin de renvoyer les masses, les multitudes, les classes peut-être, s'il y en a encore, de renvoyer aux masses la productivité et la transformabilité de leur lien. C'est une stratégie qu'il vaut peut-être la peine de ressaisir, de comprendre, en tant qu'un moteur possible de la relance de tout processus de connaissance critique. Merci pour l'attention.
Est-ce qu'il y aura des questions pour Fabio? Moi j'ai une petite question, parce que ça m'a l'air un peu périphérique ta présentation, mais c'est toute cette idée qu'au fond, j'aimerais bien entendre toute cette idée que la philosophie c'est un champ de bataille. Tu penses que c'est nécessaire de penser, d'envisager comme ça, ou est-ce que ça ne pose pas un problème quoi, au moment de justement. Est-ce que c'est compatible avec l'idée de recherche de vérité, quoi, ou d'amour de la sagesse, plus traditionnelle, plus antique?
Oui, n'est-ce pas? Je peux d'abord expliquer peut-être l'idée de philosophie comme champ de bataille, mais il n'y a pas de l'idée qui soutient en toute l'interprétation de Spinoza et de Marx, qui propose tout ça. Et ça pense que le champ du savoir philosophique, disons, est toujours plein. Donc, il n'y a pas de place qui soit déjà dans les contours, serait déjà tracé, et qu'il suffit d'occuper. Alors, le principe qui est derrière cette idée-là, c'est que la relation précède toujours les individualités. Donc, pour pouvoir occuper une place dans le champ philosophique, on doit nécessairement entrer en relation avec d'autres positions. Alors, à de ça qu'on soit la relation comme un conflit. C'est pas discutable, on peut se demander jusqu'à quel point est-ce qu'il ne faut pas le considérer comme autre chose aussi, mais je dirais le principe c'est que on ne peut pas mettre en avant des positions philosophiques, des thèses philosophiques, sans en même temps prendre position par rapport à autre chose, par rapport à d'autres thèses, ce qui, c'est très important, détermine nos propres prises de position. Voilà, Duterte, que nous, entre autres, pourrait dire, c'est quelque chose de très classique dans le marxisme, que toute philosophie, donc la philosophie en général, se distingue entre l'idéalisme et le matérialisme. Après, on ne comprend pas le matérialisme comme affirmant qu'il n'y a que de la matière, l'idéalisme comme affirmant qu'il n'y a que de l'esprit, mais il retient quand même cette distinction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'en réalité, dans toute philosophie, donc, de la mesure où elle se constitue par rapport à cet adversaire, il y a toujours à la fois de l'idéalisme et du matérialisme, avec des différents rapports de domination entre les deux, hein, peut-être plus important que l'autre, etc. Alors, en ce qui concerne la vérité, si je n'ai pas parlé ici parce que ce n'est pas si important que ça, le propos, il faudrait reprendre la distinction adjustérienne entre science et philosophie. Alors, selon Adjustère, c'est la science qui produit la vérité. La philosophie produit autre chose. Elle, je dirais, ça change d'avis en fait très souvent, mais si je me limite à une seule position qui est particulièrement intéressante, ce que la philosophie fait, c'est d'intervenir dans l'espace idéologique pour ouvrir l'espace pour que la science puisse se déployer en fait. Alors parfois, on considère la philosophie comme une sorte de protectrice des sciences, très paternaliste dans certains cas, et parfois comme voilà, l'élément politique au sein du savoir, en politique dans le sens où il permet d'ouvrir au sein de l'idéologie l'espace où la science peut se situer en tant que la production de vérité. En fait. Donc voilà, la vérité pour la douceur, en tout cas, certains douceurs se situent du côté de la science. La philosophie énonce des thèses, construit des objets conceptuels, des figures conceptuelles, mais la question de la vérité n'est pas son objet. Hein. Parce que le risque, évidemment, que ça dépend de la philosophie, une sorte de science des sciences, hein, qui comment dire, dit la vérité sur les sciences, ou dit aux scientifiques qu'est-ce que, parmi ce qu'ils disent, vrai ou faux, etc. etc. Tout ça voulait, en tout cas, à partir d'un certain moment, éviter cette tendance. Oui.
Une question pour vous remercier d'un texte tout à fait passionnant. Je vous avoue que de vous remercier, ça donne un peu de vieux parce que Althusser, vous le savez, c'est quand même quelqu'un qu'on a beaucoup lu il y a 30 ans.
Ouais.
Et puis, c'est un peu comme qu'il avait
dit. Ouais,
et manifestement, d'un coup, il y a 17 ans, enfin, il fallait savoir. Mais c'est juste une question sur la métaphore de faire le vide et sur cette parenté tout à coup des stratégies qui sont peut-être des stratégies de déconstruction, c'est ça la question. Est-ce que vous avez le sentiment que la vidange à la manière spinoziste et la vidange à la manière marxienne ou marxiste, c'est le même type de vidange? Parce qu'il y a quand même aussi des gestes de déconstruction que vous n'avez pas utilisé ce mot-là, je n'ai pas entendu. Vous pourriez dire un petit quelque chose là-dessus? Parce que Althusser a beau jeu. Et c'est évidemment très séduisant, et ça, on a du mal à penser que c'est pas vrai. Mais je voudrais un peu sûr.
Oui, alors je n'utilise pas le terme de construction parce que Althusser, effectivement, ne l'utilise pas. Lui, ce qu'il essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a de critique dans la critique de l'économie politique. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser une science qui sont une science, qui sont une science critique en même temps. Je pense que c'est ça ce qu'il essaie de faire. Mais alors, si je comprends bien votre question, le problème, c'est très bien pour le côté déconstructif, je vous demande de faire ça, mais une fois qu'on a fait ça, et on peut être d'accord avec ça, qu'est-ce qui reste en fait?
Oui, c'est ça, parce que selon la vidange qu'on a pratiquée, ouais. Et c'est par hasard que j'utilise ce mot-là, parce que ça, c'est l'art de faire le vide, c'est la vidange. Bon. Et ben, les résidus ne sont pas les mêmes, les résultats ne sont pas les mêmes. Voilà. D'un côté, il n'y avait rien à vider parce que c'était de la pure illusion. Alors on a fait le vide alors qu'il n'y avait déjà rien, sauf des inventions humaines qu'il traitait, ou alors il y a autre chose.
Mais alors je pense que même chez Spinoza, on ne peut pas, ce que j'essaie de dire en parlant de l'obéissance, on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien quand on fait le vide du lien, pour ainsi dire. Alors l'obéissance et les pratiques d'obéissance, alors l'obéissance qui est tout à fait matérielle, pratique, rituelle, etc. Et l'imagination elle-même, quand elle soutient certaines formes d'obéissance, elle est aussi tout à fait matérielle, je dirais, institutionnelle, en fait. Donc, de ce point de vue, c'est une plénitude qui n'est pas une plénitude illusoire, hein. C'est une plénitude tout à fait matérielle, tout à fait efficace et effective. Et Spinoza, je disais, considère qu'en fait, une société humaine n'est pas, sans cela, n'est pas viable, en fait. Alors, il y a tout un élitisme, évidemment, chez Spinoza, peut-être qu'il avait raison, d'ailleurs, dans lequel pas tout le monde peut devenir un philosophe, peut devenir actif comme un philosophe. Il y a tout le débat, Alexandre Materon en parle beaucoup dans son livre sur le Christ ou le salut des ignorants, où il dit, le Christ, Spinoza dit, le Christ est le seul qui nous a dit que, par l'obéissance, on peut quand même accéder à la béatitude. Là, c'est la connaissance hein, qui nous fait accéder à la béatitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens qui, malheureusement, ne peuvent pas devenir des philosophes, donc qui obéissent bien, disons, donc ça serait ce qui répond au credo minimum de la charité de la justice. Alors, le Christ nous dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démontrer, dit Spinoza, on peut avoir une certitude morale, que l'obéissance mène aussi vers la béatitude. Alors moi je pense que le travail critique de Spinoza, déconstructif, s'inscrit dans ce processus-là qui pousse les hommes à comment dire, transformer les liens qui les tiennent ensemble, qui comportent nécessairement des formes d'obéissance, en les menant vers des liens qui sont non seulement plus expressifs de leur puissance d'agir, mais expressifs de la puissance d'agir du plus grand nombre d'hommes possible. Alors, il y a une positivité, à mon avis, non pas seulement de l'imagination, mais de ce qu'on peut faire, pour ainsi dire, après l'intervention du philosophe. Alors, en ce qui concerne, et qui ne signifie pas nécessairement que tout le monde doit devenir philosophe. En ce qui concerne Marx, évidemment, on peut dire que le contenu change, change entièrement, mais ce que je dirais, quelque chose qui est commun aux deux, c'est l'idée que l'histoire est toujours surchargée par une pluralité de tendances possibles. Pour Spinoza, on pourrait dire une infinité de tendances possibles, et que ce que le travail critique permet de faire, c'est de ressaisir ce champ-là, tendance plus ou moins déterminante selon les conjonctures. Évidemment, c'est une lecture très spécifique de Marx, ce n'est pas ce que Althusser tient de Marx. Évidemment, il y a tout un autre Marx qui dirait, qui par contre s'inscrirait dans l'idée que la science vient nous révéler, alors dans une sorte d'illumination religieuse.
Vous montrez comment c'est complexe, parce que selon ce que vous dites, le côté dogmatique passe d'un à l'autre. C'est tout à fait frappant. Ça trouve bien la complexité de cette chose-là.
Oui, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant chez les deux, c'est l'idée qu'on ne peut pas se passer, peut-être qu'ils sont interprétés par la douceur en tout cas, on ne peut pas se passer de structures symboliques qui comportent toujours une certaine forme d'idéologie. Alors, une des thèses qui a le plus bouleversé les gens au Parti communiste à l'époque, quand la douceur écrivait, c'était que même dans le communisme, il y aura des idéologies. Donc, si on suit Spinoza, il y a aussi de l'obéissance. Alors, cette thèse-là me semble particulièrement forte si, évidemment, on n'en fait pas la source d'une passivisation ou d'une soumission, mais au contraire, la motivation pour les hommes, pour les masses, etc., de continuellement chercher des formes de liens, donc aussi des formes structures symboliques et idéologiques qui renforcent leur puissance d'agir et, disons, à la limite, peut-être, qui se donnent le moyen de se remettre en question elles-mêmes.
Je vous remercie. C'est vraiment tout à fait passionnant. Je suis pas sûr que ma question ne va pas être bonne. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que je vais dire, mais j'ai envie de poser quand même cette question-ci. Donc, on est dans une situation donnée. Ce qu'on appelle économie politique correspond donc à un ensemble de pratiques économiques, dans lesquelles certaines choses fonctionnent, se produisent, dans lesquelles il y a aussi des crises. Marx arrive avec un discours censé porter tout à la fois sur la réalité et sur le discours portant sur cette réalité, étant entendu que ce discours est un thème à l'autoproduction même de la réalité économique. Donc, par exemple, pour le moment, il y a des crises. Il y a des crises. La dette, etc., supposons la crise. Bon. Donc, il y a des économistes politiques qui vont venir des diagnostics. Et donc, du point de vue de Marx, mais du point de vue de la posture de ce discours-là, on entend bien qu'il n'est pas possible de proposer son discours comme un discours concurrent au discours des économistes du classique. Donc, qu'est-ce que c'est que produire dans l'espace public le discours du type marxiste par rapport à une réalité qui ne peut admettre pour celle-ci telle qu'elle se pratique effectivement que le discours de l'économie politique.
Oui, merci.
Et tu vois aujourd'hui, donc il y a la tension, qu'est-ce que ça implique aussi dans la tension entre le discours philosophique et l'engagement militant.
Oui.
Comment ça conduit Marx à habiter, et comment habiter au pluriel différentes façons de faire alors avec cette réalité. Bon, j'ai l'impression qu'on entend bien qu'il y a une tension, parce que s'il prétend, grâce à son discours, dire ce qui se passe, il se contredit, il s'annule. Mais il a mis la critique, il fait du discours de. Je ne suis pas sûr que c'est juste ce que je dis là. Mais s'il ne prétend rien dire, mais s'il prétend. Il s'annule aussi dans. Mais bon. Donc, qu'est-ce que l'on fait alors avec ce discours? Et quel type de nécessité? Donc, j'imagine bien qu'il va y avoir alors le match avec la question de la télévision, l'autocontradiction, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, ça implique aussi une philosophie de l'histoire. Et donc, est-ce que c'est un discours qui n'est pas simplement, qui ne porte pas sur une réalité dont les crises ne seraient pas liées à l'historicité, mais au bref? Qu'est-ce que vous, tu. Je ne sais pas si ça a du sens.
Non, il y a plusieurs choses, je pense. Alors, je dirais, si je peux reformuler la chose, au fond, c'est un des problèmes fondamentaux, à mon avis, de Marx, de la pro Marx, de Pottisseur, c'est on peut accepter et bien comprendre en quoi la science peut être, disons, un opérateur critique, un opérateur de critique, mais on a plus de mal à comprendre en quoi la science peut être, peut devenir un opérateur, disons, de subjectivation militante. Alors, là, il faut restituer le travail de Pottisseur. Pour la Tussère, elle s'est trouvée, elle a travaillé, des militants dans le parti le plus staliniste d'Europe occidentale, le Parti communiste français. C'est-à-dire un parti qui précisément avait fait de la science, entre guillemets, l'opérateur de subjectivation militante par excellence. Alors ce que la Tussère a essayé de faire, c'était, je pense, de redonner, de rendre à la science sa portée critique, ce qui semble nécessairement lui soustraire quelque chose au niveau de sa capacité à devenir opérateur de subjectivation militante, révolutionnaire, etc. Alors, il y a un philosophe marxiste italien qui a écrit, voilà, Dussert avait raison à faire ce qu'il faisait, sauf que son discours était absolument irrécevable parce que, en gros, en fait, dans une organisation militante de masse, on ne peut agir que sous couvert d'une sorte de fausse conscience. Je crois que le gros problème qu'Althusser nous pose et qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'on peut penser une forme d'action militante qui ne soit pas, qui ne relève pas, disons, d'une sorte de croyance aveugle? Et est-ce que la seule possibilité pour en sortir de là, c'est une sorte de scepticisme cynique selon lequel la science nous dit les choses telles qu'elles sont, mais ne nous ouvre pas d'autres possibilités d'action, etc., etc. Là, il faut comprendre que l'idée de philosophie de l'histoire, une certaine philosophie de l'histoire, était précisément ce qui structurait la science marxiste contre laquelle Althusser s'opposait. Alors, comment la science pouvait devenir un opérateur de subjectivation militante? Parce que la science disait aux gens, soyez sûrs que si vous êtes au Parti communiste, tôt ou tard, la révolution va arriver. Et alors, tout va aller bien, quoi. Alors, c'est la première chose que je voulais dire. Plus concrètement par rapport à aujourd'hui, c'est que certains marxistes, bon, il y a des gens qui se revendiquent encore du marxisme, qui disent des choses très intéressantes, Frédéric Lordon, qui concerne l'économie en particulier, peut de toute évidence montrer la manière dont le discours économique actuel est le produit nécessaire de certaines pratiques économiques. Donc, ceci est déjà important. Aujourd'hui, les choses changent peut-être un petit peu, mais il ne faut pas oublier que alors, ça explique aussi la disparition de l'Althusser à partir des années 90, des années très, très bonnes déjà. Il faut déjà se dire que le fait simplement de dire que le discours économique est le produit et donc dépendant de certaines conditions d'existence, de la production, de la reproduction sociale spécifique, est quelque chose qu'on avait tendance à oublier dans les derniers 20 ans. Hein, effectivement, le mode de production capitaliste, le système marchand, etc., était décrit, en tout cas par ceux qui pouvaient avoir accès à l'opinion publique, façonner un petit peu l'opinion publique comme nature, hein. Pire encore que Smith, qui était plus sérieux, évidemment, que ce genre. Donc, ça, c'est déjà important. Évidemment, aujourd'hui, il se passe quelque chose. Donc, il ne s'agit plus simplement, peut-être, de, pour un marxiste, de dire, attention, un certain discours est le produit et donc dépendant de certaines conditions. Je pense que la position d'Althusser serait de dire, il faut aller voir quelles autres pratiques se développent aujourd'hui. Althusser était contre l'idée d'une utopie. Il faudrait imaginer la société communiste parfaite et ensuite faire des choses, on se donne une fin et après, voilà, tous les moyens sont bons pour produire cette fin. Un utopisme un peu naïf, si vous voulez, il y a d'autres formes d'utopie, bien sûr. Mais Althusser était contre tout ça et il pensait que l'intervention de la science permet d'ouvrir l'espace pour que d'autres pratiques soient déjà visibles et encore plus qu'elles puissent s'articuler entre elles. Et c'était ça son truc. Il y a, surtout à la fin de sa vie, il disait, il y a des îlots de communisme qui sont déjà là, au sein de certains partis, dans les syndicats, dans certaines communautés religieuses. Voilà, il y avait toute une liste de formes de communisme, de ce qu'il appelait les îlots de communisme, qui existaient dans les interstices de société. Tout le problème étant que ces îlots sont destinés à ne pas prendre. C'est l'expression des événements deviennent des structures quand ça prend. C'est un processus relativement contingent, comme la mayonnaise, il disait. Alors, le fait, c'est que ces îlots-là ne peuvent pas prendre sous certaines conditions. Alors, c'est à la science de nous expliquer en quoi ces conditions existantes sont en même temps les conditions d'impossibilité pour que ces pratiques déjà existantes ne puissent pas prendre, alors de ce qu'on parlait, ce dont on parlait hier au colloque sur l'écologie, et donc nous aider à lutter contre elles. Alors, je suis conscient du fait que ça n'est pas beaucoup, peut-être, au niveau, en ce qui concerne l'opération, de susciter une subjectivation militante, peut-être, mais on pourrait dire que. On peut très bien comprendre pourquoi pour Althusser il est important de s'opposer à tout recouvrement du savoir des formations sociales par la philosophie de l'histoire. Et pour Althusser, l'intervention du savoir des formations sociales, du savoir sur les formations sociales, permet de suspendre ce discours qui tend à devenir omni-englobant parce qu'il est parfaitement couplé aux conditions existantes pour rendre visibles d'autres pratiques. Alors, je dirais qu'il ne va peut-être pas plus loin que ça. J'ajouterais peut-être que, il ne faut pas oublier qu'Althusser écrivait au sein d'un parti qui existait, et que donc, de son point de vue, le problème n'était pas tant celui de construire une force politique, mais de permettre à cette force politique, précisément par la rencontre avec des pratiques qui ne peuvent pas être comprises à partir du mécanisme même de l'accroissement défini de la valeur, ce qui permettrait à ce parti-là, évidemment c'est une grosse illusion, de se transformer. Enfin, je ne sais pas, j'ai dit beaucoup de choses peut-être de manière un peu incohérente.
Dernière question, oui.
On est court à Pôle emploi, des façons de mettre des que la comprend, c'est caricatural. Mais est-ce que on pourrait dire, donc, l'imagination qui ne dit pas les conditions d'existence, mais dit le rapport aux conditions d'existence. Lorsque tu es, une imagination qui n'est pas en prise avec le réel même, mais qui ne le ressaisit que sous la modalité d'une façon d'être affectée par lui. L'économie politique, dans la perspective des logiciels et de l'artisteur, elle consisterait donc à dire voilà ce que c'est que la réalité économique, du point de vue de l'épreuve que nous en faisons, s'il s'agit de la dire, c'est cela l'économie politique, et que le discours critique va tenter de. Mais en accusant la plus-value, ce que Marx fait, c'est tenter d'aller rechercher la réalité économique dans ce qui, en elle, ne se laisse pas absorber. Mais c'est pas clair, on est que nous en faisons.
Oui, alors je pense que d'abord c'est très important de parler en termes de preuves, ou en tout cas d'introduire ce caractère, je ne sais pas suffisamment, bien que la chose soit là, l'élément, disons, rapide, subjectif, parce qu'effectivement, donc le discours de l'économie politique n'est pas juste une histoire qu'on nous raconte. Effectivement, on éprouve nos conditions d'existence, donc le rapport à nos conditions d'existence est structuré par ce discours-là, qui est donc quelque chose aussi à nouveau de tout à fait matériel. Alors, peut-être une manière de me rattacher aussi à ce que vous développez tout à l'heure, qui est un lien avec ça. Alors, moi, c'est toute la question de l'image, de l'imagination, j'arrive à la poser mieux avec des catégories psychanalytiques, mais à mon avis, c'est tout à fait faisable de mettre en rapport avec le discours. L'économie politique nous fournit ce que Lacan appellerait l'idéal du moi. Donc, non pas le moi idéal, c'est-à-dire le moi auquel on s'identifie, mais l'idéal du moi qui, on pourrait dire, est le regard aux yeux duquel on détermine les critères de notre moi idéal. Donc, c'est celui pour lequel, alors c'est le grand autre de Lacan, celui pour lequel on essaye de réaliser notre moi idéal. Je dirais que l'économie politique, alors c'est un peu court, mais l'économie politique, avec un certain discours sur l'individualité humaine, est comprise comme le support d'une force de travail abstraite qu'il s'agit de rendre de plus en plus rentable pour l'individu ou pour quelqu'un d'autre, nous donne les coordonnées à partir desquelles on construit notre image, notre moi idéal. Alors, c'est l'idéal du moi. Évidemment, ça nous ramène au discours de tout à l'heure. La science critique viserait de quelque manière à parachuter cet idéal du moi. Oui, je le confonds. Cet idéal du moi pour démultiplier, je dirais, les possibilités d'identification. Alors, il faudrait rendre tout ça dans les termes de l'épreuve, mais à mon avis, on peut vraiment penser à l'idée, si j'ai bien compris, ce que tu développes par exemple, c'est de distinguer, disons, le geste imageant, en qu'il a lui-même image, de l'objet d'identification, disons. Alors je dirais que si l'idéal du moi est figé, une fois pour toutes, on ne peut que se trouver dans un rapport d'engagement total, d'identification totale avec une certaine image de soi, qui d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ça dans ton exposé, va ensemble avec une forme de cynisme. Je dirais que les deux choses coïncident. On peut d'autant plus s'identifier avec une image de soi qu'on dit mais bon, je ne suis pas que ça. Ça, c'est vraiment l'expression typique du cynisme contemporain, je fais une action aberrante. Et le fait de dire je ne suis pas que ça est précisément ce qui me permet de la faire, avec d'autant plus d'engagement. Là, je m'éloigne un peu. Mais alors, ce que je dirais, c'est que, en tant qu'elle pose un idéal, du moins, l'économie politique, un certain discours économique, ça nous mène, ça nous force de plus en plus à s'identifier à une seule image du moi, ce qui empêche, à mon avis, précisément de faire la preuve de cet autre aspect, de notre capacité imageante que tu as essayé de mettre en valeur.
On va faire